Continuons cette lecture critique de la présentation par Gershom Scholem des périodes de l'histoire de la Kabbale. Sa périodisation, son tableau, continue avec la troisième période. Je cite « Développement et affirmation de la Kabbale à proprement parler. Elle a pour centre l'Espagne. Elle commence vers 1200 pour se terminer en 1492 avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Un événement historique bien daté, parfaitement déterminé, clôt cette troisième période qui commence vers 1200, on ne sait pas encore pourquoi, et qui a pour centre l'Espagne. Je remarque que l'on passe de façon continue, sans aucune mention d'autres sources, de l'Orient, période qui dure 1000 ans, période donc orientale, à l'Allemagne, période des piétistes ashkénazes, pour continuer et pour s'achever en Espagne, pour culminer en Espagne, avec cette date butoir qui est l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Il y a une ligne continue qui semble être tracée par l'historien, par Scholem, entre l'Orient mystique, l'Allemagne et l'Espagne. Comme vous pouvez le remarquer, la période du nord de du sud de la France est passée totalement sous silence. La Kabbale s'est d'abord, comme les recherches de Scholem lui-même l'ont montré, développée en Provence, dans le Languedoc, du côté de Narbonne, à Beaucaire maintenant, qui était Posquières autrefois. Cette zone géographique eh bien, ne mérite pas de constituer un élément notable dans la présentation du tableau périodique de la Kabbale en six points qu'une dresse Gershom Scholem. De même, l'Italie est totalement passée sous silence. L'Italie ou la Kabbale, dès même l'époque où la Kabbale n'était pas encore ce qu'elle sera quand on dira qu'elle est à proprement parler la Kabbale, c'est-à-dire l'époque où elle était encore la mystique juive en général, la Kabbale au sens large donc, l'Italie a été une plaque tournante, on le sait maintenant, et Scholem lui-même l'a remarqué dans plusieurs de ses écrits, une plaque tournante entre les textes mystiques, je laisse ce mot pour l'instant sans le réfléchir ni le critiquer, entre les textes mystiques, en particulier les écrits de la mère Kabbale, les écrits angélologiques, ceux qui concernent le char divin, et les kabbalistes de France, enfin de ce qui sera la France, de ce qui est encore la Provence, comme on disait à l'époque, pour cette zone qui ne s'appelle plus aujourd'hui la Provence mais le Languedoc, l'Italie ne fait pas partie de cette vision de l'histoire de la Kabbale qui semble être calquée sur la mythologie historique du judaïsme allemand du début du XXe siècle. L'Orient mystérieux, l'Orient magique, l'Allemagne, le pays des légendes populaires, le pays des croyants passionnés, le pays du romantisme, et l'Espagne, l'âge d'or, le pays des Lumières, ou en tout cas la période où le judaïsme, selon le stéréotype convenu, connaît son âge d'or en termes de création littéraire, poétique, en termes de développement des sciences, des mathématiques, en termes également des développements de la doctrine ou des doctrines religieuses. La quatrième période, pour Scholem, c'est celle de la Kabbale tardive. Voici donc un nouveau concept que Scholem introduit subrepticement, la Kabbale tardive, qui se développe en Terre Sainte entre 1500 et 1650. Cette période, donc, qui est en quelque sorte un retour de la Kabbale en Orient, qui se développe, comme dit Scholem, en Terre Sainte, en fait, comme il le dira un peu plus loin, essentiellement à sa fête, c'est celle de la Kabbale tardive, autrement dit, d'une autre forme de Kabbale. L'Italie, eh bien, il n'en est toujours absolument pas question. C'est comme si les exilés d'Espagne s'étaient tous ensemble retrouvés uniquement en Terre Sainte et à sa fête, comme s'il n'y en avait pas eu. Et déjà même avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, tout autour du bassin méditerranéen. Pour Scholem, peu importe, ce sont des détails. Ce qui compte, c'est uniquement pour lui, à ses yeux, la Kabbale telle qu'elle se développe, telle qu'elle est reprise par, essentiellement, il avait en tête évidemment, Yitzhak Luria à Safed. Cinquième période, le mouvement sabbatéen et ses retombées. Proche-Orient, Europe, 1665-1800 environ, période qui s'étend sur environ 150 ans et qui est marquée, et qui, pour Scholem, est la période même du mouvement sabbatéen. Comme si après la Kabbale de Safed, les commentateurs d'Isaac Luria et même d'autres kabbalistes qui n'étaient pas des représentants ou des membres de l'école ou des successeurs d'Arabi Yitzhak Luria, et qui n'étaient pas non plus des sabbatéens, qui étaient antérieurs même à l'histoire du sabbataïsme, comme si ces kabbalistes n'avaient pas d'importance, n'existaient pas. Et comme si le mouvement sabbatéen était un mouvement kabbalistique, et uniquement un mouvement kabbalistique. Comme si il y avait une espèce de signe d'égalité entre le mouvement sabbatéen, c'est-à-dire le sabbatianisme, mouvement messianique de Sabbata et Tsevi, et la mystique juive, et la Kabbale en particulier. Ensuite, la sixième période, la dernière pour Scholem, c'est celle du chassidisme d'Europe orientale à partir de 1750. Je lis le tout dernier paragraphe hein, qui va me permettre de commenter la ligne que nous venons de lire. Bien que les quatre dernières périodes soient unies par un même dénominateur commun, nous ne nous étendrons ici ni sur le sabbatianisme ni sur le chassidisme. Il va réserver ces deux périodes à d'autres textes où elles connaîtront des développements très consistants. Mais pour dresser un tableau d'ensemble de la mystique juive, il ne faudrait pourtant pas les passer complètement sous silence. Alors, dans cette phrase qui est extraordinaire, Scholem dit son intention de dresser un tableau d'ensemble de la mystique juive. Et il émet ses scrupules à passer sous silence ces deux dernières périodes, celle du sabbatianisme et du chassidisme, car il veut en traiter de façon développée et longue dans notre texte. Il émet de grands scrupules quant à les et il ne veut pas les passer sous silence, c'est-à-dire qu'il ne veut pas les considérer, il ne veut pas qu'on les considère, que le lecteur, voyant qu'il n'en traite pas, les considère comme étant de peu d'importance, alors que pour lui, Scholem, ce sont des périodes d'une extrême importance, au contraire. Ce qui est extraordinaire et proprement époustouflant dans cette volonté de ne pas passer sous silence deux périodes, c'est que Scholem, mine de rien, sans le dire, passe sous silence d'autres périodes et des pans entiers de la Kabbale. C'est vrai particulièrement de l'immense littérature kabbalistique qui a été rédigée et des écoles kabbalistiques qui ont été à la source de cette rédaction au Maghreb et en Orient, au Maroc, en Algérie, en Libye, en Égypte, en Irak, en Iran, enfin dans les régions qui portent ce nom maintenant et qui faisaient partie de l'Empire ottoman. Comme si cet univers, sans oublier la Kabbale du Yémen, était vraiment quantité négligeable et qu'elle ne méritait pas même une mention, ne serait-ce qu'à titre de rappel, pour éviter, comme il dit, de passer sous silence quelques branches de l'histoire de la Kabbale. Mais pour Gershom Scholem, ce qui s'est passé finalement au Maghreb, les œuvres qui sont tout de même considérables de ces kabbalistes du Maroc, d'Algérie, ces Rabbi Shimon ibn Labi, ces Rabbi David ibn Zimra, et puis ces kabbalistes de Turquie, comme Rabbi Salomon Alevi Alkabetz avant son passage à Safed, comme ces autres écrits nombreux du Sefer Temuna, du cercle du Sefer Temuna, on sait maintenant avoir pour origine la Turquie, puis ces kabbalistes d'Irak et d'Iran, du 18e, du 19e siècle, et même du 20e siècle. Eh bien, toute cette kabbale-là, Scholem l'ignore délibérément, il connaissait bien sûr son existence, mais pour lui, visiblement, elle n'est pas digne d'être mentionnée. La carte géographique de l'histoire de la Kabbale selon Scholem, c'est l'Orient. L'Orient, il ne précise pas lequel. On imagine vaguement un Orient mystérieux d'où procèdent les traditions mystiques. L'Allemagne, évidemment, le centre de l'Europe. On ne va pas parler de l'Italie. C'est pas la peine, oublions l'Italie. On ne va pas parler du sud de la France. Excite le sud de la France. Il ne veut pas parler de la Kabbale qui s'est développée sous l'impulsion d'Abraham Aboulafia, parallèlement à la cabale espagnole du XIIIe siècle, en Grèce, en Sicile, et même déjà en Terre Sainte, pour Scholem, la période à considérer comme une période, c'est l'Allemagne. Ensuite, bien évidemment, c'est l'Espagne. L'Espagne avec ce qu'elle représente symboliquement comme moment de lumière, l'âge d'or du judaïsme espagnol. Et puis, l'exil et la Terre Sainte, comme si les exilés d'Espagne s'étaient tous retrouvés en Terre Sainte. Scholem semble être sioniste avant l'heure, plutôt anticipé sur le sionisme beaucoup plus tardif. Et bien entendu, le mouvement sabbatianiste, que Scholem considère comme une période en soi de l'histoire de la Kabbale, ce qui est tout de même assez singulier, quand on sait que le sabbatianisme a compté bien sûr des kabbalistes parmi ses membres, mais qu'on ne peut pas, absolument pas légitimement, parler d'une période, puisque une période suppose que le mouvement sabbatianiste aurait vraiment marqué en profondeur, déterminé la nature même de l'ensemble de la production mystique et kabbalistique du XVIIe siècle. Mais pour Scholem, cette période-là, c'est la période du sabbatianisme et puis ensuite le chassidisme. Alors, sur le chassidisme, comme si, alors on a l'impression que le chassidisme efface, ou en reprenant ce qui précède, un petit peu comme le mouvement hégélien, où une période subsume celle qui la précède, la dépasse tout en conservant ce qu'elle avait de prometteur ou d'annonciateur par rapport à la période qui lui succède. L'Aufhebung, cette dialectique historique qui met le chassidisme comme en quelque sorte, si on lit le tableau de Scholem, l'aboutissement de la Kabbale, le dernier maillon, le dernier stade de développement de la Kabbale. Cette période, elle est aussi faite pour passer totalement sous silence au XVIIIe siècle, à la fois la Kabbale du Maghreb, je le rappelle, et puis la Kabbale d'Europe orientale et même d'Europe centrale, qui, indépendamment du chassidisme, continuait à se développer. Parmi même les opposants au chassidisme, il y avait des kabbalistes profondément imprégnés par le mysticisme juif. Et le chassidisme n'a absolument pas impliqué la fin de la Kabbale, du mode ancien, du mode antérieur en tout cas. De faire de la Kabbale, mode antérieur. Écoutez-moi bien, quand je dis mode antérieur, je me réfère à la périodisation de Scholem. En réalité, il ne s'agit pas d'un mode antérieur, mais tout à fait parallèle, contemporain. En même temps que les chassidismes écrivaient leurs textes de nature chassidique, les anti-chassidiques ou les non-chassidiques, dans la même région géographique, rédigeaient leurs écrits de Kabbalah et de Kabbalah non-chassidique. De Kabbalah qui n'avait rien à voir avec le chassidisme et qui se référait à d'autres maîtres, d'autres traditions que celles auxquelles les chassidim se réfèrent. Donc la périodisation de Scholem est totalement orientée par sa vision de l'histoire. Elle n'est en rien calquée fidèlement sur la succession des faits, succession temporelle et géographique, mais elle dépend complètement, je crois, de la vision que Scholem voulait construire, et dont il était aussi l'héritier, de l'histoire du judaïsme dans son ensemble. Non seulement de l'histoire, mais de ce que le judaïsme représentait. Quand il oppose la Kabbale comme branche du judaïsme visant à accéder à une connaissance suprarationnelle, eh bien, il désigne d'un même mouvement le judaïsme comme étant une religion rationnelle. Et la Kabbale, par opposition, ce qui est le côté suprarationnel, non rationnel du judaïsme, et donc qui est marginal par rapport au judaïsme, c'est tout à fait clair et net dans sa présentation. Je lis encore quelques passages du de cet article si important et si significatif de Scholem. Perspective d'ensemble. Pour résumer du point de vue historique le développement de la mystique juive, il faut dire que son évolution doit sa particularité et sa spécificité au fait que ces mouvements mystiques aspirent de plus en plus à étendre leur période, pardon, à étendre leur influence au sein de la société et de la nation. La première période ne fait pas encore apparaître cette tendance, qui se manifeste par contre déjà plus ou moins nettement au cours de la deuxième. Mais c'est au cours des trois dernières périodes qu'elle s'épanouit en mettant en jeu une dialectique puissante. Il s'est donc produit ici un développement unique en son genre qui cadre bien avec les constantes régissant l'évolution interne de l'histoire du judaïsme. Constantes régissant l'évolution interne de l'histoire du judaïsme? Quelles sont ces constantes? Tiens, on aimerait bien le savoir. Scholem connaît le secret des constantes qui régissent ce qu'il appelle l'évolution interne, autrement dit une sorte de déterminisme qui fait de l'histoire du judaïsme une évolution qui lui donne une évolution que l'on peut anticiper, que l'on peut prévoir. Scholem a les clés, les principes de cette évolution, mais il ne nous les donne pas, ces clés. Il les conserve pour lui. D'un autre côté, il est clair, continue-t-il, qu'à toutes les époques, on discerne aussi des influences exercées par l'environnement extérieur et par les tendances prévalant alors dans le monde non juif. Mais ces influences ne se firent pas toujours sentir avec la même intensité. L'historiographie juive en général, et notamment au XIXe siècle, a fait erreur en mettant l'accent sur ces influences extérieures. Et écoutez bien la suite, c'est tout à fait extraordinaire. À la vérité, la mystique juive présente indubitablement, durant tout son cours, un caractère juif originel, en dépit des influences extérieures. Bien plus, de tous les courants du judaïsme d'après la destruction du Second Temple, la Kabbale est celui qui a réussi, sur la base d'impulsions religieuses, à entraîner en profondeur de larges masses et à exercer sur elles son emprise. Autrement dit, ce qui fait le caractère originellement juif de la Kabbale, c'est le fait qu'elle a réussi à entraîner de larges masses et à exercer sur elle, pardon, son emprise. C'est le caractère populaire de la Kabbale, populaire selon Scholem, de la Kabbale, le caractère national de la Kabbale, qui fait que, ça devient une chose claire et indubitable, que durant tout son cours, la Kabbale conserve un caractère juif originel. Autrement dit, elle conserve son origine juive, en dépit des influences extérieures qu'il reconnaît, mais qu'il minimise, contrairement aux savants du XIXe siècle, de l'historiographie du XIXe siècle, qui a fait une erreur, selon Scholem, en mettant l'accent sur ces influences extérieures. Scholem l'historien, Scholem la grande autorité académique, citée en exemple partout où on enseigne de façon académique l'histoire juive, le judaïsme, la littérature juive et en particulier la mystique juive, Scholem nous dit que les influences extérieures qui se sont exercées en réalité n'ont rien changé fondamentalement. Et que la mystique juive présente indubitablement, notez bien cette expression qui ne pouvait pas trouver plus radicale, durant tout son cours, un caractère juif originel, en dépit de toutes ces influences extérieures qui n'ont joué finalement qu'un rôle marginal, en tout cas pas du tout déterminant. Si Scholem prend soin de nous préciser cela, c'est qu'il essaie aussi de lutter contre la vision qui prévalait, en tout cas qui était fréquente à son époque, à l'époque où il écrit ces lignes encore, et plus encore quand il était en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'opinion prévalente selon laquelle la Kabbale a un caractère originellement étranger au judaïsme, que la Kabbale est une forme juive de la gnose antique, du gnosticisme antique, ou de tel ou tel courant hérétique, païen, pagano-chrétien, persan ou autre qui vient de l'Antiquité, et qu'elle n'a pas un véritable caractère juif. On s'est battu en Allemagne, et pas seulement en Allemagne, l'on s'est battu à coups d'arguments qui tenaient beaucoup moins à l'histoire et au savoir objectif cas des luttes d'opinion à la doxa, pour savoir si la Kabbale est juive ou elle ne l'est pas. Si la Kabbale est une forme juive de paganisme, ou autrement dit, elle est une sorte de cheval de Troie du paganisme ou du christianisme ou du gnosticisme ou du zoroastrisme qui a été introduit à l'intérieur du judaïsme pour en saper les bases et pour lui faire perdre son caractère propre. Dans ce débat, Scholem prend nettement position. La Kabbale conserve un caractère juif originel.